Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Le Visage du Monde. Petite chronique scientifico-culturo-poétique. Aujourd'hui, je vous invite encore une fois en pleine nature. Nous allons d'abord remonter le temps pour aller rendre visite aux libellules géantes. Puis, j'aimerais partager avec vous une nouvelle de ma composition, un peu grinçante, qui parle d'hommes et de requins. Enfin, nous finirons en poésie. Visiter un lointain passé afin de découvrir un monde où vivaient les ancêtres des libellules actuelles, des géantes d'une envergure identique à celle d'un canard colvert. Le compteur de la machine à remonter le temps affiche moins 340 millions d'années en plein carbonifère. Dans un climat chaud et humide, les plantes s'adonnent à une démesure jamais égalée depuis. Les fougères arborescentes étalent leurs feuilles monumentales aux côtés de prêles géantes et de conifères qui grimpent si haut qu'ils caressent le ciel. La végétation est d'une telle luxuriance que l'accumulation de cette matière végétale donnera aux hommes les bassins de houille. La période du carbonifère tient d'ailleurs son nom du fameux charbon. Dans la moiteur de cette jungle fantastique, les ancêtres des libellules vrombissent et règnent sans partage dans les airs. Ces insectes majuscules, nommés protodonates, mesuraient jusqu'à 70 cm d'envergure. Avec les éphémères, ils représentent les premiers invertébrés volants et les plus grands qui aient jamais vécu. Comment un tel gigantisme a-t-il été possible ? Pour mieux comprendre, remontons encore le temps pour atterrir au Dévonien, il y a 400 millions d'années. À cette époque, les plantes investissent la terre ferme et rejettent dans l'atmosphère de grands volumes d'oxygène. La proportion de ce gaz dans l'air ne cesse d'augmenter jusqu'à atteindre un pic au Carbonifère, époque où apparaissent nos libellules géantes. Les insectes respirent grâce à un système de tubes, des trachées qui débouchent à la surface du thorax et de l'abdomen. L'air atteint les organes par simple diffusion. Ainsi, plus un animal est grand, plus les trachées doivent être nombreuses pour atteindre les muscles profonds. Un air riche en oxygène permet à ce mécanisme de tourner à plein régime et autorise la nature à produire des mastodontes. Une théorie courante explique leur disparition par l'inversion du phénomène. À la fin de l'ère primaire, le niveau d'oxygène était plus bas qu'aujourd'hui. Il coïncide avec l'extinction des mégalibellules. Le visage du monde sur Radio Sainte-Afrique. Le taux élevé d'oxygène est-il la seule explication au gigantisme des libellules ? Les spécialistes des insectes fossiles pensent que cette théorie n'est pas entièrement satisfaisante. Ce sont surtout les ailes de ces insectes qui atteignaient des dimensions hors normes, tandis que la taille de leur corps était similaire à celle des grands insectes modernes. L'apparition du gigantisme est aussi le résultat d'un phénomène fréquent dans l'évolution, la course aux armements. Au Carbonifère supérieur, les protodonates étaient les seuls animaux volants. Aucune concurrence n'existait pour leur disputer le titre de roi des airs. Ils se chassaient donc entre eux, les gros avalant les petits. Grandir permettait d'échapper plus facilement à la gloutonnerie de ses voisins, tout en devenant soi-même un prédateur redoutable. Plus tard, au Permien, il y a 270 millions d'années, la donne s'inverse avec l'arrivée des premiers vertébrés planeurs, des lézards qui capturent les libellules en se lançant depuis les arbres. L'évolution favorise alors les espèces les plus petites. Discrètes et furtives, ces dernières échappent plus facilement à leurs nouveaux ennemis. Finalement, les géantes ainsi que de nombreuses lignées anciennes disparaissent il y a 250 millions d'années, lors de la crise du Permien-Trias, l'extinction de masse la plus catastrophique de tous les temps. En revanche, les premières libellules modernes, apparues au Permien, survivent à cet événement et continuent leur diversification au cours du Trias. à moins 100 millions d'années, toutes les familles actuelles peuplaient déjà la Terre. Quelques 35 millions d'années plus tard, l'astéroïde qui allait balayer les dinosaures n'a fait qu'effleurer les ailes des odonates, qui survolent aujourd'hui encore les rivières du temps. C'était Las Drolas d'Occitania, extrait du dernier album de La Talvera, un groupe de cordes sur ciel dans le Tarn, que je vous invite à découvrir si vous ne les connaissez pas encore. Je vais maintenant vous raconter l'histoire, fictive, d'un personnage qui se nomme Jean Gondouin. Jean Gondouin avait passé sa vie à combattre l'injustice. Oui, l'injustice. Comment supporter l'existence de bêtes sournoises et carnassières qui emportent au fond des eaux des nageurs innocents? Lutter contre les requins était le combat de sa vie. Jean Gondouin habitait Tahiti, territoire de lagons infestés de squales en chasse d'humains innocents. Les attaques de requins sur les hommes arrivaient rarement, certes, et les victimes étaient souvent des surfeurs que les stupides poissons prenaient pour d'imprudentes tortues de mer. Rares, oui, mais tout de même. Jean Gondouin se plaisait à dire que les attaques de requins sont comme les accidents d'avion. On nous dit toujours que l'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde. Mais enfin, s'exclamait-il, sûr ou pas, quand vous vous trouvez dans une boîte de métal qui tombe à pic, qu'en avez-vous à faire des statistiques sur la sécurité des moyens de transport ? Pour lui, les attaques de requins étaient du même acabit. Quand vous vous faites arracher la jambe par une mâchoire acérée, elle vous fait quoi la rareté de l'attaque? Vous ne vous dites pas « Ben ça alors, un requin vient de m'arracher la jambe. C'est pourtant rare d'un point de vue statistique. » Jean Gondouin était un combattant, un défenseur de l'innocent, bravant les lois pour le bien du plus grand nombre. Fervent pêcheur au harpon, il plongeait régulièrement pour se lancer dans des actions punitives qu'il estimait indispensables à la défense de la race humaine. À l'aveugle, il assouvissait alors sa rage contre les requins pacifiques qu'il rencontrait, sans discernement de taille ou d'espèce. La vengeance chevillée au corps, il faisait la loi au fond du lagon, assoiffé de sang et de destruction. Pourtant, les dents des requins s'étaient toujours tenues à distance des mollets de Jean Gondouin. Personne dans sa famille ou parmi ses amis n'avait jamais non plus subi d'attaque. Mais il les détestait, comme on a besoin parfois de détester quelque chose ou quelqu'un pour se sentir exister. Était-ce pour se donner un but, trouver un échappatoire à l'ennui? Quand on peine à trouver un sens à sa vie, on peut toujours accuser un autre d'être la cause du manque. Ce jour-là encore, Jean Gondouin sortait de l'eau, repu de représailles anonymes et sanglantes. Après s'être extirpé de sa combinaison de plongée, les mains sur les hanches, il contemplait, ravi, le lagon qu'il venait de pacifier. Il n'entendit pas le léger craquement qui laissa échapper la noix de coco, qui, quelques dixièmes de seconde plus tard, lui fendit le crâne. Il est statistiquement plus probable de mourir d'une chute de noix de coco que d'une attaque de requin. Jean Gondouin n'aimait pas les statistiques. Il avait raison, elle venait de le tuer. Nous allons terminer par la lecture de trois poèmes du poète suisse Philippe Jacoté, issu du livre « Cahiers de verdure », qui nous parle de nature, bien sûr, et d'humilité. Le premier. Trop d'astres cet été, monsieur le maître, trop d'amis atterrés, trop de rébus. Je me sens devenir de plus en plus ignare avec le temps et finirai bientôt imbécile dans les ronciers. Explique-toi enfin, maître évasif. Pour réponse au bord du chemin, ces ne sont Berce, chicorée. Un deuxième, sous forme de haïku. En ce monde, nous marchons sur le toit de l'enfer en regardant les fleurs. Et enfin, le dernier, en prose. Brûlant des ronces à la fin du jour, j'ai vu soudain approcher du brouillard, silence devenu invisible, fumée humide et froide, montée de l'eau plutôt que d'un feu, exhalaison de la terre détrempée, souffle tout à coup comme de l'acier, menace peut-être, mais que j'aimais parce que réelle, parce que vivante, parce que vraie. Comme si tout valait mieux que des pensées et que la mort. un troupeau qui serait venu sans le moindre bruit me lécher la main d'une langue froide, tandis que la nuit aussi approchait. C'était Le Visage du Monde sur Radio Sainte-Afrique. Merci beaucoup à Jean, à la technique.